Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le rendez-vous tech n'est pas financé par des sociétés tierces ou de la publicité. Il est financé par vous, les auditeurs qui choisissez de soutenir cette émission parce que vous l'appréciez, parce qu'elle vous fait passer un bon moment ou parce qu'elle vous apporte quelque chose. Vous pouvez choisir de laisser le prix d'un petit café ou d'une petite bière pour les épisodes que je produis. Et certains d'entre vous choisissent de le faire. J'en suis incroyablement reconnaissant et je voudrais remercier spécifiquement aujourd'hui Adrien Redon, Jacques Major, JTex92, Maxime l'avocat, Sebi, Octave Bory et Frère Castor. Merci à vous tous qui choisissez de soutenir l'émission et de vous engager pour son succès. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu internet, tech et gadgets. On analyse, on avale, j'allais dire, toutes les news qui se sont manifestées ces deux dernières semaines. On les digère et on les régurgite comme la substantifique moelle. Je vais arrêter cette analogie immédiatement parce que ça commence à devenir un petit peu difficile. Je suis Patrick Béja et... ce qui est certain, c'est que le but est de vous proposer une émission amusante, détendue, où on vous résume bien toute l'actualité, sans que vous n'ayez à vous-même aller regarder toutes les centaines de news dans toutes les dizaines de blogs de ces deux dernières semaines. Et on le fait de manière analytique et facile à comprendre, en tout cas c'est le but. Pour m'aider aujourd'hui, j'ai celui dont la respiration porte à travers l'Internet, c'est-à-dire JP en cause qui nous rejoint, qui n'était pas venu depuis un moment. Comment ça va, JP?
Ça va très bien. Bonjour à tous. Puis merci de m'inviter.
C'est toujours un plaisir pour ceux qui ne s'en souviennent pas. JP est le concepteur à l'origine de Sarah, dont Cédric Bonnet nous parlait souvent. Sarah étant une sorte d'assistant intelligent à la maison avant l'époque des assistants intelligents à la maison. On peut le définir comme ça?
Ouais, c'est ça. C'est un framework open source de maison communicante et auditeur aussi depuis Azeroth.fr.
Ouh, un vieux de la vieille, c'est bien. Un autre auditeur depuis Azeroth.fr également, qui est notre plaisir de tous les deux épisodes, puisqu'il se joint à nous à ce moment-là, et qui nous vient depuis la Silicon Valley, le venture capitaliste star du Rendez-vous Tech, j'ai nommé... Jeff Clavier. Ouais, bravo.
Merci. On va essayer de finir l'épisode sans vomir, parce que clairement, vu ce que Patrick a dit dans les 2-3 premières minutes, je commençais déjà à être nauséeux. Mais c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, la vallée se porte bien malgré, vous avez peut-être entendu parler en France, de monstrueux feux qui se passent dans la Napa Valley et dans Sonoma, donc la partie vinicole du nord de la Californie, où malheureusement, on a eu à ce jour presque 6000 maisons et des choses, enfin, buildings qui ont été détruits, habitations ouais. Détruits. Donc, ça fait une petite semaine et on espère le mieux pour les gens qui vont devoir reconstruire en fait leur vie, puisque malheureusement, c'est autant de familles qui vont devoir repartir.
Je sais qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent justement dans la Silicon Valley, surtout des expatriés, mais pas que. Donc, bon courage à vous tous, prenez soin de vous et on va essayer de vous faire passer une petite heure et demie, un petit peu pour oublier un petit peu vos soucis, et ça vaut d'ailleurs pour tous les gens qui nous écoutent. Un petit moment un petit peu plus léger peut-être avec ces news tech dont on va vous parler. On va avoir d'ailleurs notamment Google, avec les annonces de d'il y a une dizaine de jours, avec les différents produits Pixel et Home, etc. On va avoir Oculus qui annonce des produits de réalité virtuelle qui sont assez intéressants. Et puis, on va prendre un petit moment pour parler de Viseo, le successeur, le petit-fils de Sarah, peut-être qu'on peut l'appeler comme ça. Tu vas nous en dire deux mots, JP, pour nous dire de quoi il s'agit et ce que ça peut faire. Mais commençons tout de suite avec Google, qui a donc annoncé différents produits lors de sa conférence d'il y a quelques, une dizaine de jours. D'une part, deux téléphones Pixel comme on s'y attendait, le Pixel 2 et le Pixel 2 XL, dont on va parler dans un instant. Des produits Google Home, donc leur assistant virtuel à la maison, leur enceinte intelligente sur laquelle tu auras peut-être des choses à nous dire aussi, JP. Et puis un Pixel Book qui est un laptop de la gamme Chromebook, donc un téléphone portable hybride de la gamme Chromebook dont on va parler un petit peu aussi. Mais commençons avec le plat de résistance, les Pixel 2 et Pixel 2 XL. Alors, c'est des téléphones relativement standard, moyen haut de gamme, on va dire plutôt haut de gamme de ces dernières années. Avant de continuer, mentionnons quand même qu'ils seront pas disponibles en France, donc l'intérêt pour la plupart d'entre vous sera limité. Malheureusement, c'est ce qu'on espérait et il y a eu un petit kerfuffle, un petit cafouillage sur le compte Twitter France pendant un moment. On a pensé qu'ils arriveraient et puis finalement, ça devait être un CM qui s'est planté. Bref, les téléphones sont assez classiques, écran OLED, Snapdragon 835, deux caméras, donc une 8 mégapixels, une 12 mégapixels, étanchéité IP67, 4 gigas de RAM, une bonne batterie, etc. Pas de port jack, ce qui est assez amusant parce que l'année dernière, ils se vantaient du fait qu'ils en avaient un. Mais deux choses à noter principalement sur ces téléphones, je dirais, disons trois. D'abord, le fait que le 2 et le 2 XL sont vraiment strictement identiques si ce n'est de la taille de l'écran. Allez, 99% identiques si ce n'est la taille de l'écran. Donc, il n'y a pas de fonctionnalité en plus sur le gros. Donc, on choisit vraiment en fonction de la taille qu'on préfère. La fonctionnalité Active Edge, qui est cette fonctionnalité qui était déjà présente chez HTC, c'est-à-dire le fait de pouvoir serrer les bords de l'écran, le compresser, et ça lance une action. En l'occurrence, je crois que c'est assigné à l'assistant Google. Et enfin, le fait qu'ils aient fait énormément de travail sur l'appareil photo de ces deux téléphones et qu'ils compensent ce qu'ils ne peuvent pas faire en optique, notamment par le fait qu'il n'ait pas deux optiques au dos de l'appareil, ils le compensent avec du machine learning qui va pouvoir faire par exemple des modes portrait, comme on les retrouve sur d'autres téléphones et notamment l'iPhone, des modes portrait en machine learning qui vont détecter le fond et le sujet pour faire différents flous, un effet bokeh, avec le machine learning. Donc, ce que Google n'a pas inclus comme en matériel, il est inclus avec le logiciel, finalement. Donc, l'appareil photo est de très, très bonne qualité. Il a une excellente note sur DxOMark, même si je sais que beaucoup d'entre vous considèrent que DxOMark est un système de classement de téléphone, d'appareil photo qui est un poil biaisé. Certains disent même que ça veut rien dire du tout. Bon, c'est le meilleur élément qu'on ait pour pouvoir se dire, bah oui, il est plutôt bien quand même. Donc, en l'occurrence, il est dans les catégories des très bons. Donc voilà pour les descriptions de ces Pixel 2 et Pixel 2 XL, avec une volonté vraiment ferme et claire de Google de se lancer dans le matériel haut de gamme propriétaire, comme on l'avait évoqué la dernière fois. JP, toi qui es plutôt Android, est-ce que tu as est-ce que ça t'inspire quelque chose, ces téléphones Pixel?
Ouais, je trouve ça bien parce que ça renouvelle un petit peu les téléphones. Moi, j'ai un Nexus 5X qui pour justement être proche des nouveautés de Google. Et donc, c'est un renouveau. J'attendais le Tango en me disant qu'ils allaient intégrer la nouvelle caméra Tango. Bon, bah là, on a deux objectifs qui vont permettre de faire du AR Core, donc de la réalité virtuelle aussi, enfin, la réalité augmentée. Et en plus, un processeur qui va certainement pour but de faire tourner TensorFlow. Donc, comme tu disais, du machine learning. Et ça, ça va nous pousser vers des nouveaux téléphones de plus en plus intelligents.
D'accord. Donc bon, c'est quand même côté développeur. Bon, c'est ton univers aussi, mais en tant que consommateur, c'est des choses qui sont pas.
Je t'avouerai, en tant que consommateur, j'attends un Jellyphone
qui est un téléphone Android. Un petit peu coupé. Le Jellyphone.
Le Jellyphone, c'est un tout petit téléphone qui a comme qui tourne sous Android et qui a pour objectif juste de téléphoner et de faire utiliser 2-3 applications. Et c'est carrément l'opposé, c'est-à-dire que sur le Google Pixel, on est à des prix comme tu disais haut de gamme, alors que là, on est le Jellyphone, je crois qu'il est à $79. C'est l'opposé.
D'accord. Ah oui, c'est un tout petit écran, c'est finalement un retour vers une époque plus simple de notre vie où nos téléphones faisaient pas des millions de choses, quoi. C'est un projet
Exactement.
Kickstarter en plus.
Oui, tout à fait.
Sympathique, d'accord. Donc voilà pour les Pixel 2. Jeff, je sais que toi, tu es toujours plutôt iOS. Le Pixel 2 et Pixel 2 XL, ça t'inspire quelque chose ?
Bah, ça, il faut que je change mon Galaxy S6 parce que de toute façon je l'ai pas utilisé. J'ai essayé de. Déjà, j'ai pas eu le courage de faire un passage brut à Android parce que je savais que je serais trop malheureux. Donc j'ai acheté un Galaxy S6 et objectivement, comme je me suis plaint 2 ou 3 fois sur le rendez-vous tech, en gros je le charge, je fais rien avec, il se décharge et d'ici en gros à entre 1h et 2h d'après-midi, il est vide. Donc j'hésitais à prendre le Galaxy S8 histoire de continuer à jouer avec Samsung Gear VR.
Oui, d'accord.
Mais parce qu'en fait, je fais quand même de la VR un peu. Mais effectivement, un Pixel avec Project Fi, ça semble tentant. Donc je sais pas, j'ai pas pris de décision, j'ai pas eu le temps d'y regarder, mais je pense que quand j'ai un peu plus de temps aux entours de Noël, je verrai si je passe à un nouveau Samsung ou si en fait je donne une chance au Pixel parce qu'en fait
il est plus proche de Google comme le disait JP donc
voilà il semble avoir des specs très raisonnables et en plus on a tout ici basé toute notre infrastructure est sur Google donc ça aurait du sens pour nous de jouer un peu avec ça mais ça va pas m'empêcher d'essayer de récupérer un iPhone 10 d'ici 2 semaines et des bananes
ouais. Effectivement, bah bon courage pour ça. Mentionnons quand même qu'il y a aussi, je parlais de machine learning, il y a l'assistant connecté de Google qui s'appelle Lens, c'est-à-dire le truc qui fonctionne en visuel avec votre appareil photo, qui sera disponible sur le Pixel 2 pardon. Et donc il sera en mode preview, donc test sur les Pixels plus tard dans l'année. Donc ça aussi c'est un truc qui est quand même intéressant parce que c'est une approche de l'assistant virtuel et ils ont fait quelques démos de ce que ça pouvait donner qui était intéressant notamment avec des trucs comme de la traduction bien sûr mais ça c'est presque commun aujourd'hui mais aussi des trucs comme le fait qu'il puisse reconnaître des monuments donc vous pointez votre téléphone vers un monument il va le reconnaître tout seul et vous donner des informations sur le monument ça peut effectivement avoir du sens dans ce type d'utilisation quoi. Parlons des home assistantes, des enceintes intelligentes. Il y a, comme on s'en doutait, la version mini, qui est donc une sorte de petit galet, qui est assez joli. En plus, il a une sorte de tissu sur le bord, enfin sur le dessus, donc il s'intègre bien dans la maison. Il y a le Max, le Google Home Max, qui est l'équivalent de ce qu'avait fait du seul modèle que proposera Apple, c'est-à-dire une enceinte de qualité pour avoir du bon son. Et d'après les premiers tests, on est vraiment dans du son de bonne qualité. On sait qu'Amazon travaille sur un truc comme ça aussi. Et ça coûte un petit peu plus cher, bien sûr. Et puis ensuite, le Pixel Book que j'évoquais tout à l'heure, qui est donc un Chromebook. Donc, ces appareils qui font tourner des pages web et des applications Android. Et là, il est hybride, donc on peut le plier dans tous les sens, comme le Yoga, je ne sais plus qui faisait cet ordinateur. Enfin, il y en a plusieurs, hein, qu'on plie dans tous les sens pour l'utiliser un petit peu comme une tablette, un petit peu comme un ordinateur, qui va coûter quand même de 1 000 à 1 650 dollars, avec un petit stylet en plus pour une centaine de dollars, qui est donc voilà un autre type de produit, mais encore une confirmation que Google se met au matériel, plutôt pour les Home Mini et Max et les Home en général. Toi, JP, bah, ça t'intéresse forcément puisque tu travailles sur la maison connectée depuis très longtemps. Et puis peut-être même sur les assistants, les enceintes intelligentes en général. Est-ce que c'est des produits qui sont intéressants pour toi? Qu'est-ce que t'en penses?
Ah bah oui, carrément. En fait, dès que Google Home est devenu disponible en France, on en a acheté 3 au boulot. Et c'est quelque chose qu'on essaye d'intégrer dans tous nos développements autour des assistants conversationnels, parce que on a une enceinte de qualité qui entend très bien, qui reconnaît très bien la voix, qui marche en français. Maintenant, techniquement, on est encore limité sur ce qu'on peut faire. Et actuellement, on travaille avec un client pour justement sortir une application là très très prochaine. Sur Google Home, avec toutes les problématiques d'interaction vocale, etc. Et le fait que tu aies des petites enceintes qui arrivent, ça va démocratiser l'usage, donc ça va démocratiser l'interaction avec la voix, et ça va donner des résultats vraiment super sympas.
Les petites enceintes, elles sont à 50 dollars seulement, effectivement, donc c'est des trucs plus faciles à acquérir. Mais pardon, je t'ai interrompu.
Non mais c'est ça, et en plus c'est la réponse de Google à Amazon qui marche uniquement en anglais et en allemand, donc ça c'est une guerre saine pour justement l'assistant dans la maison, et donc c'est vraiment sympa. Ce qui manque encore sur tous ces assistants, c'est le côté proactif, donc c'est le fait que quand l'assistant veut passer un message, actuellement sur Alexa, ils ont annoncé ça il y a très peu de temps, c'est t'as juste une petite lumière, là sur Google Home tu peux pas encore le faire, et ça va venir au fur et à mesure. Et c'est là où je me dis que j'aurais dû monter une start-up avec Sarah il y a longtemps.
Ah bah, alors ça, JP, est-ce que tu te souviens combien de fois je te l'ai dit il y a, je sais pas, déjà 3-4 ans, je te le disais, et bon, bref. Mais donc oui, ces appareils-là, pour toi, ça peut vraiment démocratiser ce type d'usage. Je me rendais pas compte, en fait, je sais que Alexa n'était pas dispo en France, donc forcément, c'était probable qu'il parle pas français. Donc pour toi, le Google Home est vraiment un produit intéressant, et je sens que tu as ton chapeau de développeur sur la tête. Pour des développeurs qui pourraient nous écouter, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des opportunités sérieuses de se mettre à travailler sur ce genre de truc aujourd'hui? Est-ce que c'est suffisamment ouvert pour permettre aux développeurs tiers de créer des produits, ou c'est vraiment Google d'abord et puis les autres ils font un petit peu ils ont la partie congrue, quoi?
Non, actuellement, ils ont ouvert à quelques marques la possibilité de développer leurs premières applications et en français. Et leur volonté, c'est de s'ouvrir de plus en plus et qu'il y ait un maximum de personnes qui développent des applications. Et on va retrouver des applications similaires à celles qu'on peut trouver sur Amazon, mais cette fois en français. Avec une autre manière de consommer en fait l'information, tu pourras recommander des produits à la voix, enfin bon, ce que fait déjà Alexa depuis longtemps. Il y a une belle interaction avec Chromecast, donc t'as des synergies qui commencent à se faire, et l'avenir va être très intéressant, je pense.
Donc c'est vraiment, moi ce que je dis souvent, c'est que c'est le combat pour la plateforme. La prochaine plateforme étant l'assistant virtuel, qui pourrait devenir se tailler un morceau, enfin une place à côté des OS mobiles et des OS desktop traditionnels. Est-ce que c'est moi qui fantasme là, ou il y a vraiment une place à se faire pour eux et c'est pour ça qu'ils poussent tellement? Et du coup, il faut aussi en tant que développeur être présent là-dessus. Enfin, c'est pas comme on le dit souvent, c'est pas comme genre la 3D ou ce genre de conneries où ça, c'est une mode, ça vient, ça passe et puis ça repart, quoi.
Ah non, là, on est complètement dedans. En fait, le constat, il est simple. Il y a 1 milliard de personnes sur Facebook qui discutent potentiellement avec des assistants. Sur WeChat, ça fait longtemps que les gens l'utilisent pour effectuer des transactions. Maintenant arrive le vocal. Alors sur WeChat, naturellement, en fait, on a le bouton vocal. Donc c'est culturellement déjà implanté. En France, on n'a pas l'habitude. Donc il va y avoir un changement, mais ça va prendre vite. Et puis on l'a vu avec Sarah, les enfants discute avec avec l'assistant comme si c'était un être magique de maison, et ça se fait tout naturellement. Après, tout l'enjeu, ça va être la qualité de la voix, ça va être des interactions, ça va être que le robot ait des réponses intelligentes, et après ce sera gagné.
Ouais. Donc, j'ai l'impression que ça prend son temps quand même, mais.
Bon. Là, c'est en train d'exploser. Depuis un an ou deux, c'est en train un an et demi à peu près, c'est en train de vraiment bien bouger là.
D'accord. Tu le sens, toi, Jeff, dans la Silicon Valley, l'effervescence autour des assistants virtuels, ou t'es plus vraiment dans ce monde-là, ou est-ce que ça te parle, toi aussi?
Alors, il y a à peu près un an et demi, c'était la grosse furie autour des bots. Dans les interfaces de type messaging, ça a coïncidé avec l'explosion de Facebook Messenger. Donc c'est un de mes copains qui est le patron, et quand il a rejoint Facebook, je crois il y a 2 ans, ils avaient quelque chose comme 300 millions d'utilisateurs, je veux dire, et encore. Et maintenant ils en ont 1,3 milliard. Donc ils ont ajouté 1 milliard d'utilisateurs sur leur interface. Et
oui, mais ça,
derrière,
c'est juste
ça,
Messenger classique.
Oui,
quoi.
Non, mais je sais, non, mais je te donne la perspective. Et donc, il y a, je te dis, un an et demi, pendant 6 mois, c'était la folie. Tout était devenu on appelait ça les interfaces conversationnelles. Donc, tu voyais passer quasiment toutes les boîtes qui avaient un service du type utilitaire, que ce soit pour la finance, que ce soit pour de la réservation de voyage, que ce soit pour réserver des tickets ou des places de resto, etc. Tout arrivait au travers d'une interface conversationnelle. Et puis ça s'est calmé un peu. Et puis il y a eu la deuxième phase qui est l'explosion donc de la partie vocale. Alors la partie vocale, c'est beaucoup plus dur. Déjà, tu n'as pas vraiment un accès à la partie reconnaissance vocale, puisque ça fait partie de l'IP que Google, Amazon, Microsoft vont développer, ou Apple. Et donc, tu te plugues dedans. Et en fait, on a vu quelques boîtes développer des services. Tu vois, par exemple, on a vu 2 boîtes qui essayaient de se connecter à Amazon, mais bon, ça peut être n'importe lequel, dans le contexte des hôtels. Donc, tu mets un écho dans ta chambre d'hôtel, et tu interagis avec l'écho, tu poses des questions, à quelle heure ouvre le restaurant, etc. Et ça permet de diminuer les coûts de service de personnel pour l'hôtel. Bon, ça est encore au début, puisque aujourd'hui il y a pas mal de limitations, du genre tu ne peux pas changer, par exemple, tu ne peux pas dire Hilton, dis-moi à quelle heure ouvre le restaurant.
Ça, oui, c'est pas forcément Google. Oui.
C'est forcément Google, ou c'est forcément Echo.
J'avais l'impression qu'on pouvait le changer, mais peut-être que c'est quand toi tu l'as chez toi que tu peux changer le trigger word, mais bon, pas quand c'est dans l'hôtel, c'est pas aussi facile.
Ouais, donc on commence à avoir des applications corporate, plutôt business de ces services. Ça va prendre du temps parce que c'est compliqué. Quand t'as un accent comme le nôtre, quand on parle anglais, ça panne pas la moitié des choses, mais ça va se faire. Et c'est vrai, comme le disait JP, c'est clairement pour les enfants, c'est une interaction magique. Et pour eux, il y aura même pas de question que utiliser la voix et l'interrogation vocale, c'est tellement plus naturel que de taper sur un clavier, quoi.
Ouais. Donc, déjà qu'on voit comment ils adoptent les écrans tactiles, c'est encore plus naturel, la conversation.
Exactement. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu... J'ai pas vu énormément de dossiers dans ce domaine-là sur les 6 derniers mois, mais c'est pas pour autant que des choses intéressantes ne sont pas en train de se développer. Aujourd'hui, c'est vraiment la course entre les gros. Et les startups vont voir un peu quelles sont les fonctionnalités des kits de développement qu'ils peuvent utiliser. Et je pense que à un moment, on commencera à avoir des interactions intéressantes. Les boîtes sur lesquelles on a passé toutes les deux, d'ailleurs, les 2 boîtes qui essayaient de rentrer dans le domaine des hôtels, je les ai pas vues faire des miracles, tu vois, 6 à 9 mois plus tard. Et c'était un peu notre jugement, c'était que c'était trop tôt.
D'accord. Bon, il y a d'autres petits trucs annoncés par Google. D'abord, un programme Made for Google, qui est un petit peu l'équivalent de Made for iPhone, Made for iOS, qui va certifier les accessoires. On a également d'autres produits comme le Pixel Buds, qui est en fait des écouteurs sans fil, qui sont bon un petit peu l'équivalent des AirPods finalement. Qui coûtent autour des mêmes prix et qui sont là encore qui jouent dans l'élément assistant personnel parce que du coup c'est le truc qu'on a toujours dans les oreilles avec lequel on peut parler, toujours cette idée là. On a aussi Clips qui, bon, ça c'est une caméra que vous laissez brancher et qui va savoir quand prendre des photos. Donc c'est pratique, comme ça vous avez même plus besoin de savoir quand vous allez prendre vos photos. C'est un petit peu l'équivalent d'une GoPro mais pour la maison. On dit ça comme ça, mais il y a beaucoup de machine learning derrière. Je suis pas convaincu que ça soit le produit le plus intéressant qu'ils aient présenté. Et enfin, le Daydream View VR, qui est un casque autonome, comme il y en a plusieurs chez Android, pardon, pas un casque, mais on peut mettre les téléphones dedans. Donc, c'est un petit peu l'équivalent du Gear VR. Ce qui nous amène à parler d'Oculus, donc de la conférence que Facebook a fait il y a quelques jours de ça, pour dévoiler un certain nombre de produits et dire où ils en étaient dans le développement de leur truc en réalité virtuelle. D'une part, ils ont annoncé un casque qui s'appelle le Oculus Go, qui est un casque entièrement autonome. En gros, c'est un petit peu un téléphone portable et l'équivalent du Daydream View VR ou du Gear VR, donc un boîtier et un téléphone portable qui sont inclus en fait dans l'appareil. C'est pas que vous glissez le téléphone dedans, c'est juste un écran avec tout le matériel qu'il faut pour faire un truc de VR que vous collez sur la tête, une visière en fait, qui coûte seulement $200 et qui sera disponible au début de l'année prochaine, qui est un produit hyper intéressant à mon sens parce que on commence à arriver dans ces catégories de produits où c'est juste $200. On a une petite télécommande sans fil qui est à mon sens quand même pas du tout aussi bien que les manettes et ça c'est un petit peu embêtant parce que 50% de l'intérêt de la réalité virtuelle c'est ces manettes, la détection des mains qui ouvre des possibilités incroyables en réalité virtuelle, donc ça c'est un petit peu gênant mais il n'empêche, on est à $200 et surtout on n'a pas de fil, une autonomie qui sera ce qu'elle sera mais quelques heures certainement, ce qui sera suffisant. L'expérience pensée pour la réalité virtuelle, donc au moins des capacités graphiques suffisantes pour avoir un truc correct. $200, à mon sens, c'est un produit hyper intéressant. On n'est pas encore au moment où je dirais c'est bon, foncez, allez-y, parce que c'est prêt. On n'a toujours pas d'expérience vraiment folle sur la réalité virtuelle, mais par contre, je trouve que rien que ce genre de produit annonce que on continue dans la bonne direction. On s'est pas arrêté comme pourraient le penser certains qui observent ça d'un petit peu loin. Je dirais quels sont les autres produits qui m'ont intéressé, mais déjà sur ce produit qui était clairement le produit phare de Facebook, d'Oculus, à cette conférence, une réflexion là aussi tous les deux, JP peut-être?
Bah, c'est comme tu dis, hein, c'est super bien que le prix du casque soit baissé. Ça va vraiment démocratiser les choses. Et un élément qui est vraiment important, c'est que Mark Zuckerberg expliquait qu'ils sont vraiment tournés vers le social VR. Et en fait, nous, dans les différents projets qu'on voit passer, on cherche à savoir qu'est-ce qui va avoir du sens, qu'est-ce qui est du domaine du jeu vidéo, qu'est-ce qui est du domaine de vraiment des services intéressants. Et je crois beaucoup au social VR, parce qu'il y a un effet d'être, comme il disait à une époque, de téléporter auprès de personnes qui va vraiment révolutionner pas mal de choses. Et donc à $200, ça va vraiment être super intéressant.
Jeff, toi aussi, tu parlais un petit peu de VR tout à l'heure avec ton Gear VR notamment. C'est un truc que tu continues à regarder de près, notamment ce casque-là qui est quand même, on l'achète, on le met sur la tête et c'est parti quoi. Il n'y a pas besoin de brancher quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de configurer des totems pour te repérer dans la pièce. C'est un produit intéressant, je pense, non?
Oui, tout à fait. C'est un vrai produit de grande consommation. Dont le marché de la réalité virtuelle a besoin pour que ce soit beaucoup plus, enfin, ça devienne un vrai marché. plutôt qu'un truc pour l'élite, pour les gens qui ont les moyens de se payer un Rift, etc. Donc super intéressant, faut voir un peu ce qu'ils vont être capables de livrer. Objectivement, j'ai pas vraiment de doute parce que les équipes d'engineering de Facebook sont super impressionnantes. Et typiquement, quand Zuck annonce quelque chose, ils ont tendance à livrer plus ou moins dans les temps, plus ou moins dans les fonctionnalités. Donc, ça va être super intéressant. Nous, on a fait un investissement dans une boîte qui s'appelle Looking Glass qui développe l'hologramme. Donc, en fait, c'est une expérience qui est sociale au sens où tu peux avoir 3-4 personnes ou plus autour d'une table et tu vois en fait la même chose en 3D. Mais c'est clair que pour faire de l'immersif, ça va être intéressant.
On est effectivement, je pense qu'on arrive au niveau de tarif où justement les gens peuvent se dire. Oh allez merde, je m'en prends un pour voir ce que ça donne quoi. Donc
ouais,
bon, à voir par contre si ça sera disponible en France. J'imagine que c'est le genre de truc Facebook qui se met à construire du matériel. Bon, c'est Oculus, hein, donc ils connaissent un petit peu, mais Facebook qui se met à construire du matériel à grande échelle, ça va peut-être arriver par étapes. Mais clairement, si on parle du niveau d'adoption dont ils rêvent, il va falloir se mettre à la production en grande quantité, quoi, production de masse. Ils ont également baissé le prix.
Pour que Facebook fasse quelque chose d'intéressant, c'est forcément pour toucher. C'est le milliard, quoi. S'ils n'arrivent pas à avoir un milliard de personnes sur un de leurs produits, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, à mon avis, ils vont vraiment pour un système d'adoption beaucoup plus global, quitte à ne pas faire d'argent ou de perdre un peu d'argent sur la partie hardware, de manière à amener les gens sur leur plateforme.
Ouais, enfin, un milliard, c'est pas sur l'Oculus Go dans l'année qu'ils vont en vendre un milliard, quoi. À 10 ans ou 15 ans, ils visent un milliard. Mais là, sur l'Oculus Go, ça sera quelques millions, quoi.
Ouais. Enfin, ils ont rajouté un milliard d'utilisateurs sur Facebook Messenger en 2 ans. Hein.
Oui, non, mais enfin, ça, un milliard sur Facebook Messenger, c'est une app que tu downloads. Et en plus, ils poussaient les gens qui avaient déjà l'app sur le téléphone, l'app Facebook, à télécharger l'app Messenger à côté. Donc, ils avaient quand même des leviers assez puissants. Enfin,
ouais. Ça prendra du temps, mais ça fait partie. Oui. Ça fait partie de leur vision. Donc, si tu demandes à 10 ans combien d'utilisateurs sont sur la plateforme Facebook pour du VR, clairement, c'est un milliard.
Alors, oui, oui. Sur 10 ans, je suis d'accord. Oui, c'est ce qu'ils visent, c'est certain. Oui.
Est-ce que ce sera plus rapide ou pas? On verra. Ça dépend de l'adoption de la technologie. Ça dépend de. Ça crée des problèmes au niveau réseau, parce qu'il faut quand même avoir de la bande passante et des réseaux optimisés pour que quand tu bouges d'un côté à droite, à gauche, tu puisses récupérer les infos très rapidement. Donc c'est pas trivial.
Ouais. Bah justement, au niveau matériel, le Rift est désormais officiellement à $399 avec les contrôleurs, donc c'est une option qui est envisageable, surtout que le prochain modèle, qui est le prototype Santa Cruz, dont ils ont également présenté le progrès, qui est vraiment, alors là pour le coup, c'est la vraie prochaine évolution du casque type connecté à l'ordinateur avec juste un fil, gestion de la perception de l'extérieur inside out, c'est-à-dire avec des caméras dans le casque plutôt que des trucs qu'il faut poser dans la pièce. Là, on est plutôt a priori sur du 2019, c'est ce qu'on imagine, mais là, ça sera le truc... La vitesse supérieure, donc entre-temps, peut-être qu'il serait intéressant pour certains d'acheter un Oculus Rift avec ce prix réduit, ou alors de s'intéresser à l'Oculus Go, parce que clairement, je pense que $200, si on est intéressé par ces produits, c'est un investissement qu'on peut faire sur 2 ans, ou quelque chose comme ça. Et on a également la présentation du Rift Core 2, qui est en gros les éléments essentiels logiciels du Rift. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir leur Dash UI, leur interface utilisateur Dash, et plutôt, c'est le Home qui est l'expérience de bureau virtuel, qui est le bureau d'ordinateur en virtuel. C'est hyper impressionnant, là, c'est un petit peu science-fiction, quoi. Si vous avez l'occasion d'aller voir ça, je vous recommande de le faire. C'est donc le Rift, l'interface utilisateur Home de l'Oculus Rift, Et là, quand on voit ça, rien que pour ça, je me dis que j'aimerais bien y jeter un coup d'œil, quoi. Non, c'est le Dash, pardon. Le Home, c'est encore autre chose. C'est le Dash, le système d'exploitation. Donc voilà pour ça. Quoi d'autre? Je pense qu'on peut passer à notre troisième sujet du jour, qui est donc Viseo, le logiciel. Je sais même pas comment décrire ça. C'est un Viseo bot maker, et je précise, hein, c'est même pas parce que JP est là que je voulais en parler, mais même Corben a fait un article dessus, donc ça prouve bien que c'est un sujet intéressant. Mais c'est quoi exactement ce truc pour construire ses propres robots, pour prendre avantage de l'intelligence artificielle, des assistants virtuels qu'on a disponibles un petit peu partout, ou c'est pour construire des agents conversationnels? C'est quoi Viseo Botmaker?
Alors, en fait, Sarah, en 2012, il y avait deux promesses. La promesse, c'était de pouvoir jouer avec des technologies cool, par exemple la reconnaissance vocale, gestuelle, faciale, etc., et de pouvoir s'en servir pour pouvoir interagir avec les objets connectés et avec plein d'autres API qui partaient un petit peu dans tous les sens pour un petit peu contrôler tout et n'importe quoi.
C'était un petit peu le hub de toutes ces pièces de Lego, quoi, qui les connectaient.
C'est ça.
Quoi.
C'était le jeu de Lego croisé avec des technologies un peu d'intelligence artificielle. Et en fait, en 2016, ce qu'expliquait Jeff, c'est qu'il y a eu une explosion des assistants conversationnels. Microsoft a fourni une brique qui permet de parler sur différents canaux de messagerie. Et donc, tu développais une fois ton chatbot et ça parlait sur tous les canaux. Mais le problème, c'est que cette partie-là, c'était vraiment très code. Il fallait vraiment être développeur pour faire ça. Et à l'autre bout, on a vu l'explosion de services en ligne SaaS, où là, tu fais du clic-clic et tu fabriquais aussi un assistant conversationnel. Et je suis tombé par hasard sur un truc d'IBM qui s'appelle Node-RED, qui permet de faire le meilleur des deux mondes, où tu vas graphiquement faire le design de ta conversation en jouant justement avec des briques de Lego, un petit peu comme Yahoo Pipes à l'époque, où tu vas chaîner tu vas chaîner différentes briques et puis tu vas créer des usages. Et du coup, je me suis dit, tiens, ce serait l'occasion de mettre Sarah au goût du jour, de développer toutes ces briques pour se connecter dans un premier temps aux assistants conversationnels type Microsoft, enfin tout ce qui est textuel, et puis de rajouter des briques pour parler sur du Echo, parler sur du Google Home, parler sur tout ce qui est possible, et ne pas oublier la communauté Sarah, donc avec des briques qui vont permettre justement de dire j'écoute sur mon PC, je parle sur mon PC. Et pendant un an et demi, on a un petit peu développé toutes ces briques. Ça, et puis, on a décidé d'open sourcer parce qu'en fait, les technologies bougent tellement dans tous les sens que ça n'a pas de sens de vouloir essayer de vendre ce genre de choses. Ce qui est important, c'est le design de la conversation, c'est la manière dont ton bot va être super réactif, sympa. On va bosser avec des scénaristes qui vont vraiment créer une histoire au bot, faire du storytelling, et pas la techno. Et donc la techno, j'ai la chance justement de mélanger le côté et pro, et de pouvoir open sourcer tous ces développements pour que les gens puissent en profiter, et en même temps que les entreprises puissent mutualiser leurs efforts pour faire ce genre de choses. Donc on a rajouté Google Home là récemment, tout le monde va en profiter. On avait fait du multilinguisme, tout le monde en profite au fur et à mesure. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faciliter la conception d'assistants conversationnels pour créer des usages. Pour l'anecdote, par exemple, on a fait un chatbot pour Direct Energy, et le bot, il se connecte à ton compteur Linky, compteur électrique en France, et il va être le coach. Donc il va te dire tu as bien consommé ton électricité. Les gens ne savent pas s'ils sont en heure pleine, heure creuse, et si ça sert à quelque chose. Donc on va leur dire, tu vois, tu consommes pas assez pour que ce soit rentable d'être en heure pleine, heure creuse. Donc on se connecte à de l'IoT, on s'est amusé à mettre sur un cheval un capteur Sigfox de température, et puis on va discuter avec le cheval pour savoir s'il va bien. Il va répondre ouais, je vais bien et tout, en vocal, et on va connaître ça dans sa température corporelle. Et il y a un usage derrière qui est que si un cheval tout d'un coup gagne 4 degrés, ça veut dire qu'il est malade. Donc les gens qui sont propriétaires de chevaux sont intéressés à pouvoir savoir comment va leur animal. Donc en fait, on a un petit peu numérisé le cheval.
Numériser le cheval, c'est pas mal, ouais. Mais du coup, j'ai un petit peu du mal à voir précisément. Ça s'adresse aux développeurs, Viseo Botmaker, ou aux end users, quoi.
ça s'adresse pas aux end users parce que ça nécessite quand même de bricoler des choses. Mmh. Ça s'adresse plutôt du geek qui veut un petit peu, comme il bidouillait à l'époque avec Sarah, des fichiers XML, mais pas vraiment du code, ces gens-là, jusqu'aux gens qui veulent fabriquer des bots de manière plus sérieuse et à plus grande échelle.
C'est un logiciel qui tourne sous Windows, Mac, machin, et que tu te sors une application au final?
C'est un logiciel que tu peux faire tourner sous Windows, tu dézipes, tu lances, et en fait tu vas sur une page web, et en fait le vrai usage c'est de l'installer en ligne dans le cloud, et comme ça il sera visible de tous les services, et tu vas vraiment faire de la tuyauterie, tu vas le brancher à Microsoft Bot Builder, que tu vas lui-même brancher à Facebook, et quand tu vas envoyer des messages à ton bot sur Facebook, ça va arriver jusqu'à cette interface-là, et toi tu vas décider, alors si jamais je reçois un message, et que dans le message, là tu vas mettre une brique d'analyse du langage naturel, comme Louis ou API, qui va te permettre de comprendre en fait ce que veut dire le message, et ben tu vas dire, si le message veut que j'allume la lampe, alors, tu branches une brique comme les Philips Hue qui va te permettre d'allumer une lampe. Enfin, c'est un exemple vraiment très simple. Mais l'idée, c'est de chaîner des petites briques technologiques les unes avec les autres et de pouvoir designer justement des usages. Et les gens qui savent développer les briques vont les proposer à la communauté. Les gens qui ne savent pas développer les briques vont juste les assembler entre elles et ça permet de séparer un petit peu les deux métiers. Et c'est pour ça qu'on parle de bot designer et de bot maker, les gens qui sont plutôt fonctionnels, les gens qui sont plutôt techniques et qui vont travailler ensemble pour créer des expériences.
C'est en fait une sorte de scripting pour de langage de script, une sorte de langage de script ou d'assemblage de briques pour créer des bots conversationnels qui vont ensuite, eux, pouvoir se connecter à uniquement de l'IoT,
tout ce qui a une API. Donc je te disais, on s'est branché avec le compteur Linky, on s'est branché avec un cheval, on va se brancher avec des sources de données. Je me suis branché avec Trello, qui est un outil qui permet d'organiser de l'information. Dans les banques, on nous a demandé à se brancher sur du Cobold.
C'est un langage que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein.
Exactement.
Ouais. En fait, Cobold.
Ouais.
Wow.
Ouais, ouais, c'est le genre de trucs, tu sais, qui ont été... c'est vrai que je sais plus où j'entendais parler de ça. Il y a plein de systèmes d'exploitation et de logiciels de base de banques, de gros trucs d'infrastructure, genre de... je sais pas moi, je perds mes mots. De générateur, pas de générateur. De... Ouh là là, ça va pas, moi.
Système bancaire.
Ouais, enfin système bancaire, mais je pense surtout à de l'énergie, les trucs qui font de l'énergie dans pour l'électricité. Non mais aidez-moi s'il vous plaît, c'est pathétique.
Bah vas-y en anglais, on traduira.
Non mais un gros générateur d'électricité. Les auditeurs doivent être en train d'exploser de rire là. Une centrale électrique, voilà. Non mais même vous avez pas compris, c'est pas possible. Il faut avouer qu'il est un peu tard ici. Non, clairement, je m'étais pas bien exprimé.
T'es pas très bon à Pictionary et en plus, on n'a même pas le dessin.
Mais donc, tous ces trucs-là qui ont été conçus il y a 40 ans ou 50 ans ou 60 ans en COBOL, et aujourd'hui, il n'y a plus de développeurs COBOL. Donc, ils sont devenus hyper rares et hyper recherchés. Bref, c'était juste une aparté. Mais oui, donc on vous a demandé de faire du COBOL, pas mal.
Ouais, bah on a demandé si c'était possible et à partir du moment où on est dans... En fait, techniquement c'est possible, mais c'est pas forcément la solution au problème, et il faut remonter plus en amont sur le problème. Ouais. Mais tout ça pour dire que on est en JavaScript, donc on peut se brancher à vraiment tout ce qu'on veut, et là je me suis branché un bar connecté, donc tu dis Sarah, fais-moi un jus d'orange, et ça pilote un bar qui va faire couler du jus d'orange. Donc toutes les expériences sont possibles à partir du moment où tu as des idées et que tu sais chaîner les choses. Je suis fan d'une caméra qui s'appelle Blink, c'est une caméra sans fil qui fonctionne uniquement sur pile, et je m'étais amusé à dire, je récupère la vidéo de la caméra, dedans je fais de la reconnaissance faciale, ensuite j'envoie les visages, j'essaie de savoir qui sont les visages et je les envoie sur ma télé. Et donc tu chaînes des briques les unes après les autres et tu réussis à obtenir quelque chose d'assez sympa.
Mais en l'occurrence,
tu vois
ça
la tête
mettait,
de ton facteur qui t'a posé un courrier.
Ah oui, c'est ça, d'accord, ok. Effectivement. Donc, ça te mettait les visages qui apparaissaient dans le truc. Oui, c'est marrant cette idée de Lego qui s'imbrique les uns dans les autres parce que tu mets un outil à disposition et puis après, la seule limite, c'est les API qui sont disponibles partout et l'ingéniosité des utilisateurs. Quoi.
Exactement.
Ok, écoute, si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur Viseo, vous pouvez retrouver le lien, je suis sûr, dans sur le compte Twitter de JP qui sera en lien dans les notes de l'émission. Mais en tout cas, c'est viseo.io, V-I-S-E-O.io.
C'est bot.viseo.io.
Ah, et si on va pas sur bot.viseo.io, tout explose ? On voit la source du site en COBOL, c'est ça ?
C'est ça.
D'accord. Oui, donc effectivement, bot.viseo.io. Super, écoute, merci beaucoup pour ce petit laïus sur le successeur de Sarah, dont certains auditeurs se souviendront encore avec émotion. On va faire une petite pause avant de passer à nos news et rumeurs, une petite pause pour vous rappeler que si vous appréciez l'émission, vous savez que vous pouvez la faire vivre, c'est grâce à vous qu'elle vit, les auditeurs qui choisissent de la soutenir financièrement, parce que sans vous, il y aurait sans doute pas d'émission, et peut-être même que si elle existait, il y aurait peut-être, des pubs ou des annonceurs. C'est marrant parce que j'ai de plus en plus de gens qui me contactent avec l'effervescence autour des podcasts, des gens qui me contactent pour me proposer des services, des partenariats, des trucs du genre, des trucs pas toujours hyper, que je n'accepterai pas forcément, on va dire ça comme ça. Mais bref, ce qui me permet d'être totalement indépendant et de faire mon difficile, c'est vous, c'est les auditeurs, parce que sans vous, la situation serait très très différente et peut-être même impossible. Donc, merci à vous tous qui choisissez de soutenir l'émission sur Patreon, c'est patreon.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
.com/rdvtech et j'aimerais remercier aujourd'hui spécifiquement Paeau, Romain Vensang, Édouard Verneret, Frédéric Lechange, Simon Argentin et Black Jackos. Merci à vous tous qui soutenez l'émission et merci à tous ceux qui choisissent de le faire. C'est grâce à vous qu'on est là et ma reconnaissance est éternelle, sachez-le. Et si vous souhaitez les rejoindre, vous le savez, c'est patreon.com/rdvtech. Les notes sont, le lien est dans les notes de l'émission. Quelques news et rumeurs, tiens, on va se retourner vers Jeff à nouveau, qui va nous dire s'il confirme avec ses enfants la tendance en question. Il y a une nouvelle étude sur quelques milliers d'adolescents américains qui dit que Snapchat représente aujourd'hui leur réseau social préféré à 47%, donc presque la moitié qui dit ça. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont pris presque 10% en juste 6 mois, Snapchat, que Instagram est à peu près un quart, c'est le réseau social préféré pour un quart des utilisateurs, et qu'il descend clairement depuis 2 ans, Instagram, là où Snapchat, pour comparaison, était à 11% en début 2015, maintenant donc il est à 47%, et les deux qui ont beaucoup souffert, c'est Facebook, qui est à 9%, qui est un petit peu remonté par rapport à il y a 6 mois, et Twitter qui est à 7%, donc 7% de ces adolescents, on parle vraiment des adolescents aux États-Unis, hein, donc c'est très spécifique, mais tout de même, Twitter est devenu le réseau préféré des adolescents américains pour seulement 7% d'entre eux. Donc je résume, 7% Twitter, 9% Facebook, 24% Instagram, qui est quand même en chute, et le grand, grand gagnant, c'est Snapchat à 47%. Jeff, bon toi je sais qu'ils sont quand même un petit peu grands, mais ils sont tout le temps sur Snapchat.
Ma fille, donc qui a 16 ans et demi, je dirais qu'elle passe la plupart de son temps, sinon, là où elle devrait faire ses devoirs, entre Snapchat où elle va prendre je sais pas combien de photos par jour qu'elle va balancer en Snap, enfin sur Snapchat, donc ça oui. Instagram, j'ai l'impression qu'elle en fait aussi beaucoup, mais si tu devais dire est-ce qu'elle passe deux fois plus de temps sur Snapchat que sur Instagram, je dirais probablement. Facebook, elle ne veut pas y aller parce qu'on est dessus. Et elle passe son temps à nous inviter, puis après à nous désinviter, puis après à nous réinviter, etc. Et puis
ah oui, donc Twitter, elle t'invite, et puis tout à coup t'es plus dans ses amis, et puis ensuite
voilà,
t'es revenu. D'accord.
Voilà. En fonction de ce que je poste, ou en fonction de ce qu'elle poste et qu'elle veut pas que je vois. et puis Twitter, je pense qu'elle l'utilise jamais. Même si elle a un compte Twitter depuis très très longtemps. Mmh. Et mon fils, bon bah lui il est plus vieux, il a 20 ans, lui il passe tout son temps sur Facebook et il fait de la politique sur Facebook. Donc,
D'accord, bien sûr. Il rentre dans cette phase de sa vie où on sait qu'on a tout compris à tout quoi. On est tous passés par là.
Exactement. Exactement.
D'accord. JP, je sais plus si t'as des enfants toi.
Non, j'ai pas d'enfant, mais par contre, effectivement, c'est ce que dit Jeff, c'est super révélateur, c'est que l'image est présente de plus en plus partout, et la prochaine révolution, ça va être justement les analyses des images qu'on commence à voir un peu partout. Il y a des algos qui commencent à apparaître de partout.
Ah bah oui, là, on est déjà en plein dedans quand même.
Et c'est en train d'exploser dans tous les sens. Il n'y a pas une news régulière où on a encore amélioré ça ou ça ou ça, et ça va donner un avenir assez intéressant.
Oui, donc faites attention à ce que vous postez quand même. Une autre étude semble montrer que, alors là encore, on reste aux États-Unis, mais c'était intéressant, donc je voulais en parler. La prédominance des services de type Uber et Lyft et tout ça dans ces villes américaines n'aurait pas contribué à une réduction du trafic. Au contraire, les gens prennent moins les transports publics, et du coup il y a plus de voitures sur les routes parce que il y a plus de voitures type taxi de ce type là. Alors là encore, je pense qu'il faut être très prudent sur les résultats de cette étude parce que on est dans les États-Unis où les transports publics sont clairement non seulement de moins bonne qualité,
oui,
mais aussi très peu considérés. Ouais, tu confirmes, Jeff?
Mais oui, bien sûr.
Mais bon, effectivement, c'est une contre-performance, je dirais, intéressante, parce que l'idée était quand même que les gens n'utilisent plus leur voiture pour utiliser ces services-là. Ça pourrait aussi être un contre-coup qui, le temps que les gens se disent « bon, bah vraiment, j'ai plus besoin de ma voiture », bah ils gardent leur voiture et en plus, ils vont utiliser aussi des services de ce type. Mais généralement, on attend plutôt un effet différent, quoi.
Bah, en fait, empiriquement, je vois tout à fait ça. C'est-à-dire que quand tu te mets dans une rue embouteillée de San Francisco, telle que j'en ai une littéralement sous le nez, je regarde à Second Avenue, la deuxième rue de San Francisco, à Second Street, et tu comptes le nombre de Uber ou Lyft, et tu vois que en gros un tiers du trafic, ce sont des Uber ou des Lyft. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, comme tu le dis, les gens ne vont pas forcément prendre leur voiture, ils vont les laisser chez eux, parce qu'en fait, c'est tellement difficile de se garer dans pas mal des artères de San Francisco que moi, je viens, je me gare, et après, je fais du Lyft et du Uber plutôt que d'essayer de me regarer avec ma voiture. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les infrastructures de transport en commun sont tellement pourraves, que ce soit en termes de vétusté des bus, que ce soit en termes des routes, que ce soit en termes de la congestion, t'as plus vite fait en fait de faire du porte-à-porte avec ta propre voiture, donc Lyft ou Uber. Et puis, tu as maintenant des, ces produits, la Lyft Line ou Uber Pool, je ne sais pas quoi, qui te permet en fait d'avoir jusqu'à, de faire du covoiturage. Donc, ça veut dire que les prix sont bien moins chers et ça devient donc beaucoup plus accessible. Alors, c'est le problème aujourd'hui de San Francisco, c'est qu'il y a beaucoup trop de voitures. Et le problème en plus, c'est qu'il y a beaucoup trop de voitures qui ne viennent pas de San Francisco. Donc, tu as plein de gens qui vont faire jusqu'à 4, 5, 6 heures de route pour venir d'autres endroits de Californie pour travailler à San Francisco, parce que c'est un des meilleurs marchés pour Uber, sachant qu'on est quasiment... peut-être pas forcément tous les jours, mais va y avoir le système de bonus qui rentre en compte et donc ils peuvent se faire quand même beaucoup d'argent. Et ce qui fait que tu as plein de gens qui non seulement sont dans le trafic, mais en plus ils connaissent pas la ville. Et donc ils font que des conneries. Et donc une autre statistique, c'est que 2/3 des amendes qui ont été distribuées, alors je sais plus si c'est sur la dernière année ou les 26 mois à San Francisco, sont à des chauffeurs Uber et Lyft. 2/3 des amendes.
D'accord.
Oui, 2/3 des infractions du code de la route où ils font des conneries, ils vont te tourner à droite où tu peux pas, ils tournent à gauche où tu peux pas, ils vont te faire des demi-tours sur Market Street. Tiens, imagine le Gus qui fait un demi-tour sur les Champs-Élysées. Tu vois, tu dis, ah bah c'est dans l'autre sens, pas, fallait je tourne. Et ils te font ça en fait dans l'artère principale de San Francisco.
Effectivement, c'est une série de problèmes, là encore peut-être un petit peu inattendus, ce genre de truc, genre les gens qui font 4 ou 5 heures de route pour venir dans la ville où on peut bien bosser parce qu'il y a beaucoup de clients, et en plus effectivement tout cet aspect de les gens arrêtent de prendre les transports publics et prennent des Uber parce que c'est plus simple, c'est un petit peu, bon c'est peut-être la rançon du succès ou la rançon de la gloire, mais c'est contre-productif quoi. Mais encore une fois, c'est dû à la vétusté des services de transport en commun américains. Ça, c'est
oui, que ce soit le bus, que ce soit le train, l'infrastructure de train. Enfin, il y a quelques jours, j'étais encore en France et j'ai pris un TGV. Et tu rêves pas, tu arrives même pas à avoir un TGV, une expérience de type TGV, quelque chose que tu considères comme étant complètement donné quand tu es français. Mais un concept de TGV aux États-Unis, ça n'existe pas. Quoi.
Ouais. C'est sûr que on n'est pas exactement dans les mêmes situations. Et heureusement, même si je sais qu'il y a plein de gens qui se plaignent de l'état des transports en commun, peut-être surtout du métro ou du RER à Paris, on a quand même des infrastructures qui sont autrement meilleures que celles qu'on peut trouver aux US. Mais enfin, les US, ils sont particuliers.
Venez à San Francisco pour voir Bart et je peux te dire, tu arrêtes.
Jeff, je sais que tu as rendez-vous. Oui,
ouais,
pardon.
Juste une chose avant que je quitte. Je ne sais plus si on a parlé des Pixel Buds, donc les nouveaux.
Je l'ai mentionné, en passant.
Je l'ai mentionné. D'accord. Mais je voulais juste te dire que c'est un des rares trucs que j'ai vu qui m'excitait, parce que cette notion de headset ou de truc que tu te mets dans l'oreille et qui te fait de la traduction simultanée. Pour moi qui ne parle pas espagnol en étant en Californie, je peux te dire que c'est quelque chose qui va être intéressant. Donc j'attends avec impatience de l'essayer.
Je l'ai effectivement pas mentionné, mais ça fonctionne avec le traducteur de Google. Et donc, comme Skype peut le faire déjà aujourd'hui, mais en portable et dans votre oreille, il entend ce que dit la personne, ça vous le traduit. Et puis quand vous parlez, ça va le traduire à la personne en face et c'est connecté à Android. Donc ça peut passer d'un téléphone à l'autre, etc. Très, 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 très intéressant ce... traducteur en temps réel, instantané, universel. On vit vraiment dans une époque formidable sur certains aspects.
Absolument. Et c'est là que je vous quitte et merci encore à tous et on se retrouve d'ici un petit mois.
Un petit mois, exactement. Merci beaucoup, Jeff. Bonne journée.
Allez. Salut, salut.
Ciao.
Merci.
Écoute, je te propose qu'on continue avec des trucs absolument formidables de notre époque, en l'occurrence le duel Megabot. Je me demande si c'est pas toi qui nous en avais parlé à l'époque déjà, mais c'est en train de se concrétiser, et notamment en streaming sur Twitch. Donc reparle-nous de ce truc un petit peu fou qui a été kickstarté.
Mais oui, effectivement, je crois que c'était que j'en avais parlé dans ton émission. Et ça voit enfin le jour. Et donc, c'est pour rappeler, en fait, c'était des Américains qui voulaient construire un énorme robot de plusieurs tonnes. Et ils ont fait une campagne pour le faire. Et donc, ces robots au sens avec des grosses chenilles, des espèces d'énormes canons façon paintball, ce genre de choses. Et ils sont tout de suite amusés à défier les Japonais en combat, en duel. Un an plus tard. Et donc les Japonais ont fait la même chose, ils ont fabriqué leur robot. Et demain,
à l'heure où on enregistre l'émission.
Ouais, donc il est un petit peu tard là, donc ça sera sans doute déjà passé quand vous l'écouterez, mais.
Et ça va passer en streaming sur Twitch, où on va voir le combat entre deux énormes robots qui vont s'affronter. Et au-delà de ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est
mais
que...
Mais quand on dit, voulu... excuse-moi, je t'interromps, mais énorme robot, c'est effectivement ce qu'on pourrait faire assimiler à des mechs dans les dessins animés japonais, des mechas. C'est des trucs qui font quoi, 5-6 mètres de haut, quoi, même plus.
C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Et qui, c'est comme si c'était deux énormes pelleteuses qui s'affrontaient.
Ouais, sauf qu'ils sont conçus pour être, ils ont des bras avec des paintballs géants, des pinces géantes, enfin c'est des trucs de science-fiction quoi.
C'est ça. Et il y a un humain qui est dans le cockpit et ils ont essayé aussi de sécuriser le cockpit pour que la personne soit pas en danger. Et ce qui est amusant, c'est que derrière, bah, ils ont réussi à d'un côté développer tout le côté e-sport dans ce domaine d'énormes combats de robots, comme on le voit dans certains films de science-fiction. Et de l'autre côté, ils ont réussi à impliquer énormément d'industries comme l'armée américaine, qui a aidé pour avoir des chenilles qui permettent de tourner plus facilement sans brûler le moteur. Enfin, voilà, plein de pièces de mécanique d'ingénierie qui sont d'un niveau vraiment professionnel et qui ont permis de faire avancer l'industrie tout en étant ludique. Et donc, bon, on verra ce que ça donne demain.
Effectivement, donc vous pourrez rechercher Megabot et vous trouverez ce combat sur Internet très certainement. Je suis très curieux de voir effectivement comment ça va se passer. Une petite note sur l'iPhone 10, ou plutôt sa technologie de reconnaissance faciale. On le mentionne souvent, mais à tort ou à raison, quand Apple annonce un truc, ça a tendance à donner le là de l'industrie. Et on a un report, un article de KGI, enfin une mention de KGI, qui est un analyste, un cabinet d'analyse, qui dit que après l'annonce de l'iPhone 10 et de sa caméra faciale détection de visage, il y a eu trois fois plus de demandes aux revendeurs pour les technologies et les capteurs de 3D pour le visage qu'il y en avait avant. Donc clairement, les développeurs sont intéressés, les développeurs ou les constructeurs sont intéressés. Hein. C'est pas très surprenant, mais c'est amusant. Et on a aussi des rumeurs selon lesquelles Apple aurait fait un deal avec Steven Spielberg pour ressusciter la série. Alors en anglais, ça s'appelait Amazing Stories dans les années 80. C'était une série qui a eu, je sais plus, 20 ou 40 épisodes. Et en français, c'était Histoire Fantastique. Je sais pas si tu te souviens de Histoire Fantastique, JP. C'était dans la veine des trucs de la quatrième dimension et Tales from the Crypt, etc.
Ouais, effectivement, ça me ramène des souvenirs, le titre en français. Je suis curieux de voir ce que ça va donner.
Ouais, c'est bon, encore dans cette tendance de tous les constructeurs, fournisseurs de services de s'intéresser au contenu également. Et bon, il semblerait qu'Apple soit assez sérieux sur ce sujet. Amazon est en train de développer une sonnette intelligente qui permettrait d'ouvrir la porte quand un livreur vient vous livrer un truc. En plus du fait qu'ils sont en train de tester leur service de livraison à eux, qu'ils avaient, je crois que c'est en Inde qu'ils l'ont lancé, ils sont en train de le tester aux US visiblement. Et donc entre ça et la sonnette intelligente, enfin la sonnette serrure intelligente d'Amazon qui leur permettrait de venir vous livrer les trucs chez vous directement, ou par exemple vous mettre vos courses dans votre frigo ou ce genre de truc. La question c'est, JP, est-ce que tu serais prêt à laisser rentrer un livreur Amazon chez toi ?
Chez moi, non, je pense pas, mais tu peux tout à fait prévoir.
Mais chez les autres, tu veux bien.
Non, mais tu vois, tu peux prévoir un espace. Enfin, moi, j'ai un jardin où le livreur pourrait poser des choses dans une zone abritée. Et je bosse pas mal avec des gens du monde de l'automobile. Et dans les réflexions qu'il y a en tête, c'est ouvrir mon coffre de telle heure à telle heure pour qu'un livreur puisse poser des choses dans mon coffre de voiture qui craignent pas, bien sûr, à un instant T, tu vois. Donc il y a cette notion de partage, d'ouverture de porte qui commence à arriver à tous les niveaux.
Ouais, j'avais pas pensé à la voiture, effectivement, qu'on a déjà. Bon, si on va là, on peut même imaginer une sorte de coffre à côté de chez toi si t'as une maison, ou même peut-être une sorte de boîte dans laquelle tu pourrais genre mettre des lettres, un truc comme ça. Je sais pas comment ça pourrait s'appeler, mais ça pourrait être assez intelligent, je pense, pour recevoir des trucs. Bon, je plaisante bien sûr, mais oui, une sorte de, enfin, une boîte aux lettres plus grande pour les trucs de livraison. Pour les maisons, c'est sûr que c'est facile à envisager. Pour les appartements, un petit peu moins. Mais pourquoi pas ce genre de truc avec la comment dire. On commande tellement de trucs à domicile maintenant, je me demande si on peut pas imaginer à terme, par exemple, des portes qui incluent une boîte aux lettres plus large qui pourrait s'ouvrir s'ils ont le code ou avec une autorisation électronique, et ça pourrait résoudre bien des problèmes de livraison qu'on a depuis un bon moment.
Ah bah, ça j'y pense complètement, avoir une espèce d'énorme boîte aux lettres pour recevoir tous les paquets où on peut juste poser et pas reprendre, ça c'est
bah oui,
clair,
c'est ça.
Que ce serait top.
Une petite touche triste pour Microsoft et Windows Mobile. Alors bon, ça fait un moment qu'on sait que Windows Mobile se dirige vers la sortie, mais Joe Belfiore, qu'on connaît bien dans la division Windows Mobile, a confirmé que les nouvelles fonctionnalités pour Windows 10 Mobile n'étaient pas vraiment une priorité, qui se concentre plutôt sur les corrections de bugs, les mises à jour de sécurité, etc. Mais ce qui était hyper intéressant, c'était une explication sur pourquoi finalement ils ont été contraints d'abandonner Windows Mobile. Et ce qu'ils disaient était un petit peu tragique, quoi. Ça brise le cœur des fans. C'est que le gros problème finalement, c'était les apps, comme on s'en doutait un petit peu. Les apps, et ils disaient, on a tout essayé pour faire venir les développeurs. On leur a payé de l'argent, on leur a écrit leurs apps, etc. Mais on n'a pas réussi à les intéresser. Et à la base, le problème, c'était que on n'avait pas, c'est ce fameux cercle vertueux ou vicieux, ce serpent qui se mord la queue. On n'avait pas assez d'utilisateurs. Voilà, c'est tout. On n'avait pas assez d'utilisateurs. Et donc, on n'a pas réussi à avoir assez d'apps. Et donc, ben, fatalement, ça n'a pas réussi à prendre. Et ça illustre encore une fois ce problème dont je parle maintenant, j'ai l'impression, à tous les épisodes, cette question de plateforme, la raison pour laquelle ils se battent tous les GAFAM et tous les autres se battent pour être premiers sur les plateformes, c'est que généralement sur les nouvelles plateformes, il y a la place pour un, deux, voire peut-être trois acteurs. Enfin, généralement, c'est plutôt deux. Et si on n'est pas dans les premiers, même avec la puissance d'un Microsoft, bah, ça peut être hyper difficile de rattraper son retard. Et bon, là, encore une fois, c'était une confirmation. Mais triste, on sentait la tristesse dans le tweet de Joe Belfiore. C'était vraiment, on a tout essayé, on voulait. Mais à un moment, il faut se rendre à l'évidence. S'il n'y a pas les apps, et c'était ça le problème, s'il n'y a pas les apps, bah, ça marche pas. On va pas continuer à s'acharner pendant 10 ans. Si ça ne fonctionne vraiment pas, il y a peut-être d'autres choses à faire qui seront plus intelligentes pour la boîte, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu tristoun. Sony a annoncé un truc qui là, par contre, va faire sourire JP, j'en suis sûr. Est-ce que tu te souviens du robot Aibo des années 90-2000?
Ah ouais, non, mais complètement.
Ouais, c'était un truc. Je sens bien le truc que, sur lequel toi tu te serais jeté déjà à l'époque, non?
Ah, mais j'ai voulu, mais à l'époque je gagnais pas assez d'argent et c'est resté très cher.
Il était cher,
et
oui,
en plus, et il reste toujours super cher. Et c'est très bien que Sony en fait le relance.
Je vais juste expliquer. Aibo, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'était un chien robot où ils ont essayé de mettre à l'époque, bon bah, de l'intelligence artificielle. C'était plutôt des scripts et un comportement très beaucoup plus robotique que IA. Mais donc voilà, il a vécu quelques années, ça c'était clairement très cher pour ce que c'était et pour ce que ça pouvait faire, c'est-à-dire pas grand-chose. Et aujourd'hui, donc, ils vont le relancer 12 ans après l'arrêt de la production, donc c'était en 2005. Et là, il y a peut-être des choses à faire aujourd'hui, effectivement.
Bah, je crois que c'était Fred Kaplan qui avait bossé dessus, si je dis pas de bêtises, qui est un chercheur en interaction avec la robotique. Et il y avait un côté vraiment très empathique du robot qui rendait le chien vraiment super sympa. Et en plus, j'avais vu une news il y a quelques mois où bah, il y avait encore des possesseurs d'Eibo qui les mettaient au cimetière parce qu'on trouvait plus de pièces détachées, on trouvait plus rien.
Oh là là.
Et qui les gardaient encore.
Mais moi, je voulais faire un truc marrant, là, tout à coup, qui mettent leur Eibo au cimetière, c'est horrible.
Et oui, mais c'était terrible. Il y a eu plein d'images comme ça parce qu'au fur et à mesure, bah, il y a de moins en moins de pièces. Le prix des Eibo reste super cher. Et du coup, il y a eu un musée où il y avait les anciens Eibo qui restaient à cause du manque d'énergie, manque de pièces.
Oui, effectivement, bon, c'est un petit peu terrible cette histoire. Mais bon, peut-être que maintenant ils vont pouvoir faire revivre dans un élan karmique leur Eibo qui a rendu l'âme il y a quelques
Moi,
temps.
Moi, j'achète tout de suite.
Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, voilà, ils ont au moins un client. Donc voilà pour Eibo. Quoi d'autre? Un nouveau système de gestion de films en numérique. Vous vous souvenez peut-être de Ultraviolet, qui était une grosse tentative des studios américains d'avoir un format numérique avec DRM qui fonctionne. Eh ben, il a été assez vite abandonné. Vous aviez des codes parfois quand vous achetiez vos DVD ou vos Blu-ray pour l'équivalent, enfin, avoir le fichier en numérique disponible partout. Eh ben, là, il y a encore une nouvelle tentative, mais qui vient cette fois de Disney, qui a l'air technologiquement bien supérieur à ce qu'on avait vu chez Ultraviolet. Et il y a pas mal de studios qui se sont associés au truc, notamment Amazon Video, Google Play, iTunes, etc., etc., mais aussi 20th Century Fox, Warner Bros., Universal Pictures. Donc, peut-être que, alors moi je connais pas du tout le système, mais il est lancé là très bientôt, si ce n'est déjà le cas. Ça s'appelle Disney's Movies Anywhere, c'est indépendant de Disney, donc c'est Movies Anywhere, et peut-être que ça sera enfin un système de stockage de films numériques qui sera utilisable et potable. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire oui, les DRM c'est chiant et on préfère avoir un fichier libre. Oui, certainement, ça c'est la meilleure solution, mais peut-être que c'est suffisamment peu chiant pour être intéressant de le faire légalement. Et du coup, ça pourrait être une solution pour cet aspect, quoi. Netflix augmente ses prix un petit peu, mais enfin quand même, ça faisait pas si longtemps qu'ils les avaient augmentés. C'est aux États-Unis, par contre. Mais bon, le prix de l'abonnement standard dépasse les $9.99, on passe à $10.99 par mois, et le premium passe de $11.99 à $13.99, sachant que le premium inclut la 4K. Moi, ça me gêne pas plus que ça. Mais bon, voilà, c'est à noter, les prix, ça me gêne pas parce que je me dis, Netflix me satisfait, ils ont des bonnes productions et ils ont un bon service. Donc je peux comprendre qu'ils augmentent un petit peu leur prix. Faudrait pas que ça soit tous les ans non plus, quoi. Toi, ça te gêne, les augmentations de prix de ce genre de service ou...
Bah, ce montant-là, non, parce qu'on a une offre qui est quand même super large avec un bon catalogue. Après, c'est dommage qu'on n'ait pas toutes les nouveautés et c'est dommage qu'on soit encore obligé de faire le grand écart entre Netflix et les différentes plateformes de VOD qui te proposent des choses. Mais voilà, moi, j'ai sauté le pas sur Netflix et du coup, ça couvre pas mal de choses que je voulais regarder. Donc, c'est assez positif.
Ouais. Moi, je regarde quand même, j'ai en fait, c'est personnel, mais j'ai plusieurs, je suis abonné à plusieurs services. J'ai HBO Go parce qu'en Finlande, on y a accès à HBO. J'ai Amazon Vidéo. J'ai Netflix, bien sûr, etc. Netflix, c'est celui que je regarde vraiment le plus. Presque tous les jours, donc ça ne gêne pas. Si d'autres commençaient à augmenter leur prix, ça serait peut-être un petit peu plus problématique, mais... Bon, ensuite, ça, c'est personnel pour chacun, quoi. Une petite annonce de service. Le WPA2, qui est un système de protection du Wi-Fi, il y a des chercheurs qui ont trouvé une faille de sécurité dans le WPA2. Donc, il y a des patchs qui sont en train d'arriver sur absolument tous les systèmes et ça inclut les routeurs, les modems, etc. Donc, il faut peut-être mettre tout ça à jour. Si vous savez de quoi il s'agit, eh ben, il faut pas utiliser autre chose que le WPA2 parce que c'est quand même le meilleur système de protection. Mais pensez à mettre à jour vos machines. Et le truc qui est vicieux, c'est que c'est pas juste les ordinateurs, les téléphones, etc. C'est aussi les routeurs. Donc, bon. il faut penser à le faire. Si vous savez comment ça fonctionne, regardez si votre routeur est bien à jour dans les jours et les semaines à venir. On va conclure avec quelques sujets un petit peu plus francophones. Vous vous souvenez sans doute que on a un pass Navigo pour les transports en commun en région parisienne. Et ben figurez-vous qu'il va arriver sur les smartphones dès 2019. Enfin, on entre dans le futur. La RATP commence à faire des tests, RATP, SNCF, etc. commence à faire des tests. Enfin, non, pas SNCF, encore que ils gèrent certains des RER. Bref, c'est des problèmes de Parisiens. La RATP commence à faire des tests, et non seulement il y aura le Pass Navigo classique qui sera disponible sur téléphone, mais en plus on a un Pass Navigo rechargeable, c'est-à-dire pas uniquement pour l'équivalent de la carte orange de l'époque. Ça rappellera des souvenirs à certains, ce nom. Donc pas seulement l'abonnement mensuel qui vous permet d'aller partout dans la zone, mais en plus un crédit qu'on va mettre sur le pass qui va faire l'équivalent des tickets. Donc on passera le truc, ça consommera un ticket en fonction de la distance, etc. Je dirais qu'il était temps, mais bon. On va pas cracher dans la soupe. C'est quand même bien qu'on s'y mette enfin, quoi. Je sais pas si t'as vu cette campagne du Conseil national du numérique qui veut sensibiliser les gens au type d'internet que nous voulons. Il parle de l'ère des plateformes et il dit, cette campagne nous dit, il faut faire attention à l'internet qu'on construit, en fait. Et c'est une idée qui, moi, me paraît 100% positive, et j'étais vraiment prêt à applaudir énormément ce type d'initiative, c'est-à-dire une réflexion sur les grandes plateformes du numérique qui aujourd'hui ont énormément de pouvoir. On parle bien sûr d'Apple, Google, Amazon, etc. Et en regardant la vidéo en question, qui est en fait une vidéo pour décrire la consultation qu'ils sont en train de faire et sensibiliser les gens à cette consultation. Donc en regardant cette vidéo, j'ai été un petit peu déçu parce que je la trouve particulièrement à charge. C'est-à-dire que on a tous les côtés négatifs de cette de la considération qu'on peut avoir envers les plateformes, et Dieu sait qu'il y en a et qu'il faut pas les occulter. Mais par contre, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment en train de pointer les plateformes du doigt et de les accuser. Et je suis pas certain, d'une part, ils sont pas en train de dire travaillons ensemble et essayons de mieux faire les choses. Ils sont vraiment en train de dire on a Big Brother sur Internet. Comment mieux les contrôler, mais ils parlent de scénarios catastrophes, quoi. C'est genre Facebook peut influencer les élections. Ah, ils disent pas certains utilisateurs peuvent utiliser Facebook pour influencer les élections. C'est ce type de truc. Ils pointent du doigt Facebook en disant ah, regardez tout ce qu'ils peuvent faire. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on a une conversation avec des gens avec lesquels on veut travailler. Donc ça me gêne un petit peu. Ça me gêne un petit peu cette approche qu'ils ont. Et encore une fois, ils soulèvent des éléments qui sont importants. Ils parlent par exemple, le fait que les conditions générales d'utilisation sont complètement illisibles. Enfin, ça n'a aucun sens d'être d'accord avec un truc qu'on lira jamais. Ce genre de choses. Mais voilà, le ton me paraît relever plus, sans aller jusque-là, mais c'est un petit peu une vidéo des Anonymous, plus que une réflexion adulte et sérieuse telle que j'aimerais les voir de la part d'un organisme aussi respectable que le Conseil national du numérique. Donc voilà, c'est un mini coup de gueule que je voulais pousser. Maintenant, il est bon qu'ils aient cette réflexion et qu'ils la poussent. Mais pardon, JP.
En fait, moi, ce que je vois de l'autre côté, c'est par exemple la Microsoft Experience, le salon qu'il y a eu il y a quelques semaines.
Oui, auquel on était pour l'épisode précédent.
voilà, tous les stands avaient le mot-clé GDPR ou RGPD sur leur stand, qui est une loi qui a été votée en mai, qui va s'appliquer en mai prochain 2018. Et moi, je le vois au quotidien. Toutes les entreprises avec lesquelles on travaille sont en mode panique à vérifier que on fait bien les choses, que les données sont nécessaires, bah, qu'elles sont bien stockées et tout ça.
Excuse-moi, les gens savent peut-être pas exactement de quoi il s'agit. C'est une loi qui renforce énormément les obligations des sociétés pour la sécurité de leurs utilisateurs, c'est ça ?
C'est ça. Et elle est vraiment tellement contraignante que vraiment tout le monde se met à paniquer pour que les choses soient bien faites. Donc ça va remettre
un peu de contraintes. C'est quel genre de contraintes, tiens ? Tu peux peut-être nous le dire. Je sais que Christophe l'évoquait rapidement dans l'épisode précédent, mais on parle de quoi concrètement ?
Bah, concrètement, je prends un exemple tout bête, sur les assistants conversationnels, tu vas discuter avec une personne et cette personne, elle va te donner des informations sur elle-même et il faut absolument pas conserver ces informations parce que sinon c'est, ça peut être des informations vraiment personnelles et qui sont nécessaires pour l'usage du service, mais ensuite il faut effacer ces données. Parce que quelqu'un qui tomberait de manière mal intentionnée sur ces données pourrait faire des choses. Je ne peux pas rentrer dans les détails sur les projets sur lesquels on travaille, mais dès que c'est des données de santé, t'imagines tous les gens qui discutent avec un chatbot, qui donnent, je sais pas moi, tout bêtement, leur poids, leur âge, et tout ça c'est listé, il faut faire attention à ce qu'on fait derrière, et c'est pas forcément nécessaire de garder ces informations-là plus de un mois, par exemple. Donc la loi normalise tout ça.
Ouais, mais justement, ça me paraît plutôt positif, quoi. Je sais que Christophe aussi évoquait le fait que il y avait un petit peu de panique ou de difficulté au niveau des entreprises. Est-ce que c'est pas dû au fait que justement ils étaient pas du tout ni sensibilisés ni préparés à ces problèmes qui sont sérieux et que là c'est un petit peu le grand ménage, on remet les choses à plat et donc tout le monde va faire les choses bien. C'est compliqué au début parce qu'il faut s'y mettre, mais il faut s'y mettre parce que sinon personne ne le fera jamais, quoi. C'est justement si on le fait jamais, ça se fera jamais, non ?
Bah, il y a ça, et puis il y a l'enjeu que je crois qu'avant, c'était Facebook qui s'était fait taper dessus, ils avaient eu juste 150 000 euros d'amende. Et que si la même chose arrivait maintenant, ils auraient quelques pourcents de leur chiffre d'affaires d'amende. Mmh. Donc tout de suite, c'est dans des grandeurs qui motive beaucoup plus.
Non, mais je veux dire, j'essaye de te demander si c'est au final quelque chose de positif, ou est-ce que tu dis que c'est trop contraignant trop rapidement, ou les gens ont. C'est l'implémentation là qui a été faite dans la loi française, si je ne m'abuse, mais on savait que ça allait arriver. Enfin, c'est plutôt positif ou non?
Moi, je trouve que c'est positif parce que ça force à avoir des services de qualité. C'est en ça. Plus, ça met en cause à la fois l'entreprise, à la fois celui qui réalise. Donc, on peut plus se défausser de faire un travail mal fait et puis de s'enfuir. Mmh. Donc, c'est assez positif. Maintenant, il va y avoir quand même, je pense, des pots cassés parce que le temps que les entreprises se mettent en place, ça va prendre un certain temps.
On continue avec un élément un petit peu compliqué dans l'IT, dans les technologies de l'information. Le chômage dans les technologies de l'information est au plus haut de son histoire. Il est même plus haut qu'au moment de la crise et du dot-com crash d'il y a un certain nombre d'années. Et on est à, en France, je crois quelque chose comme 50 000 chômeurs. Donc, c'est compliqué pour les informaticiens qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, bon courage à vous, mais peut-être une lueur d'espoir. Si vous êtes intéressé par, d'une part, la sécurité et la cybersécurité, et il n'y a pas d'autre part, puisque c'est ce dont on parlait dans la GDPR, mais c'est effectivement le cas. Et ben là, pour le coup, il y a une énorme demande. Et tout ce qu'on dit depuis des années et des années, l'importance de la sécurité et de la conformité aux bonnes pratiques, et fait que maintenant il y a de la demande. Donc si vous y connaissez, c'est bien pour vous. Et si vous y intéressez peut-être un petit peu de loin, c'est peut-être le moment de développer ses compétences dans ce domaine, quoi. Et enfin, on finit avec les administrations françaises, avec la Hadopi, qui a publié un rapport sur ce qui s'est passé dans les 6 mois qui ont suivi la fermeture du site Zone Téléchargement, qui était un énorme site de téléchargement de contenus illégaux sur le net, que la Adopi a fait fermer il y a, je sais plus combien de temps c'était, c'était en l'année dernière, et qu'il y a eu 6 mois après, il y a un gros site qui est réapparu. Mais en gros, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que encore une fois, leur étude montre que, alors elle montre deux choses. Le site en question a vu des remplaçants apparaître assez vite et qui ont très vite acquis le niveau de volume qu'il y avait sur le site qui a été fermé. Donc là, c'est pas très surprenant finalement, ce qu'on savait nous un petit peu instinctivement et avec différentes études a été confirmé avec cette étude-là qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc ok, merci, c'est bien, mais au moins ils sont honnêtes dans leur analyse. L'autre truc qui est intéressant, c'est que sur le plus gros site qui a pris la relève, il y a en fait un petit nombre de comptes qui sont les distributeurs et les contributeurs les plus actifs. On parle de l'ordre de 14 comptes, donc entre 10 et 20 comptes qui sont vraiment hyper actifs et qui représentent 90% des titres qui sont mis à disposition. Ce qui laisse penser quand même que malgré tout, les gens qui sont derrière ce genre de gros sites hyper populaires sont peut-être des gens qui le font avec une intention commerciale, et donc c'est pas vraiment le grand rêve magnifique du partage universel que fait tout le monde. Là, on est quand même dans un modèle où, selon leur étude, hein, mais ça me surprend pas outre mesure, on a les gens qui peut-être ont conçu le site, qui mettent à disposition énormément de contenu et qui ensuite, avec la publicité, font leur beurre là-dessus. Mais bon, donc c'est bon à savoir et à comprendre également d'un côté comme de l'autre, quoi.
Je crois qu'il y avait un article de Corben qui disait que c'est sur The Pirate Bay qu'ils se sont mis à miner, pendant que tu consultais les différents films, etc., disponibles, ils minaient en tâche de fond avec le navigateur des bitcoins.
Alors, écoute, c'est un sujet que j'avais mis dans les notes de l'émission, je crois. Je l'avais mis, mais je l'ai retiré, donc je vais le remettre. C'est un truc qui est peut-être bon à mentionner pour les auditeurs. C'est effectivement, il y a des différents sites et qui ont commencé à intégrer des scripts qui vont utiliser la puissance de calcul de votre ordinateur pour faire du minage de Bitcoin ou de crypto-monnaie. Et là où ça devient vicieux, c'est que les scripts peuvent passer non seulement sur le site. On a eu quelques scandales, des mini-scandales il y a quelques semaines, de types qui ont fait ça sur des gros sites, mais sans doute c'était des gens qui se disaient « Ah, c'est super ce système, je vais le faire, personne va s'en apercevoir et je vais récupérer les bitcoins ». En l'occurrence, des gens s'en sont aperçus, mais non seulement il y a ça, mais ça peut aussi passer par genre des publicités ou des trucs comme ça qui, elles, vont charger le script et l'utiliser chez vous. Là où ça devient vraiment intéressant, au-delà de ces utilisations un petit peu frauduleuses, c'est qu'on pourrait imaginer des systèmes où un site va dire « Bon, bah notre site est gratuit, vous pouvez l'utiliser gratuitement, machin, mais par contre, quand vous êtes en train de le consulter, eh ben, on va utiliser une partie de la puissance de votre ordinateur, peut-être, 20 ou 30% de la puissance de votre ordinateur, pour miner des bitcoins. Et ça pourrait être des bitcoins ou autre chose, et ça pourrait être un système de rémunération, un modèle économique finalement, pour certains sites, qui serait peut-être un gagnant-gagnant, parce que le site reste, entre guillemets, gratuit, vous payez un petit peu d'électricité. En gros, bon, vous payez pas forcément, mais ça reste relativement limité. Et puis, le site, lui, peut utiliser ça pour se financer. Pourquoi pas ? Non ?
Ouais, complètement. Et puis, après, c'est à mettre en perspective avec le fait que le Bitcoin s'envole et que ça devient de plus en plus compliqué de miner. Donc, il y a tout un sujet derrière tout ça.
Ah oui, ça, c'est sûr que le cours du Bitcoin, ça pourrait faire un gros, gros sujet, c'est certain.
Nous, on a fait un truc sur le carnet d'entretien de voiture sur une blockchain qui va sortir bientôt.
Oui, j'avais lu. Bon, peut-être que d'autres s'y intéressent aussi, mais je crois même qu'on en avait parlé il y a quelque temps du carnet d'entretien de voiture sur blockchain, de manière à ce que ça soit infalsifiable. Effectivement, c'est l'une des applications de la technologie blockchain, quoi. Bah écoute, on arrive à la fin de l'épisode, JP. Merci beaucoup d'avoir participé. Est-ce que tu peux nous répéter où les auditeurs peuvent te retrouver s'ils veulent, s'ils en veulent, un peu plus sur Viséo ou sur ce que tu fais en général?
Merci de m'avoir invité. Moi, vous pouvez me retrouver sur Internet, sur Twitter, JP Encausse, ou sinon sur mon site encausse.net. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur l'avenir de Sarah et tout ce qui va derrière, il y a plein d'infos sur mon site, ou sinon sur bot.viseo.io, où on a fait une petite landing page qui un petit peu explique ce qu'on fait. Voilà.
Super, merci beaucoup. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr, le site où je mets toutes les émissions que je produis, et où vous trouverez également notamment le rendez-vous jeu, qui est une émission où je couvre un petit peu comme pour l'actu tech, je couvre l'actu du jeu vidéo, toujours avec l'idée de vous rappeler, ou plutôt de vous résumer tout ce qui se passe d'intéressant et d'important dans ce domaine. Et en ce moment, il y a beaucoup de jeux qui sortent, c'est vraiment les deux trois mois complètement fous du jeu vidéo, avec des trucs de super qualité qui sont disponibles ces semaines-ci. Donc, si vous suivez ça d'un petit peu loin ou si ça vous intéresse, je vous recommande l'écoute de cet épisode, de cette émission, qui est hyper bien nommée, le rendez-vous jeu. Voilà, c'est clair et net et précis. Et si vous appréciez l'émission, comme toujours, vous pouvez aller mettre une petite note sur iTunes. Vous savez que c'est un moyen pour les gens de nous découvrir, et quand ils voient des bonnes notes ou des bons commentaires, ça les aide à se dire voilà, cette émission est peut-être pour moi. Et je remercie notamment Cascatch et Calno qui tous deux depuis la France ont laissé 5 étoiles. Ils disent formidable et la définition même du podcast. Merci à tous les deux, ça me fait chaud au cœur de voir tout ça. Donc n'hésitez pas, où que vous soyez dans le monde, je peux voir les commentaires que vous allez mettre, donc je pourrai me réchauffer le cœur avec et en parler aux auditeurs. Donc n'hésitez pas à venir mettre des commentaires sur iTunes ou sur les autres catalogues de podcasts que vous utilisez. Et bien sûr, patreon.com/rdvtech si vous voulez soutenir l'émission financièrement, si elle vous plaît, si elle vous amuse, si elle vous intéresse, si elle vous fait passer un bon moment, si elle vous aide à suivre l'actualité de la technologie, parce que c'est un truc qui est important pour vous personnellement ou professionnellement et que ça vous fait gagner un temps fou. Et vous savez, le temps c'est de l'argent et vous pourriez en retransférer une petite partie, $1, $2, $3, le prix d'un café ou d'une petite bière, vers la production de l'émission. C'est hyper simple, ça prend 2 minutes pour s'abonner et vous savez que ça sera hyper utile et en plus ça vous emplira d'une fierté sans pareil, j'en suis certain. Et vous pouvez faire ça très facilement à patreon.com/rdvtech. Les notes sont le lien vers le site est bien sûr dans les notes de l'émission, donc vous pouvez faire ça tout de suite là maintenant ou quand vous en aurez le temps. Et bien sûr, c'est sans engagement, donc vous pouvez le faire pour une semaine, un mois, 10 mois, comme vous voulez, et vous arrêtez quand vous voulez. Je vous remercie en tout cas de l'écoute et de l'attention que vous nous avez portée. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode, 2 semaines à peu près, on verra comment c'est parce que je vais peut-être faire un petit voyage aux États-Unis. Mais en tout cas, on sera là avec un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes journées et d'excellentes nuits et je vous fais plein de bises à tous. Ciao, ciao.